annuelle frauduleusement dressée par le gérant. Or, la compagnie allait crouler, et Arnoux, civilement responsable, venait d'être condamné avec les autres à la garantie des dommages-intérêts, ce qui lui faisait une perte d'environ 30 000 francs, aggravée par les motifs du jugement. Frédéric apprit cela dans un journal et se précipita vers la rue de Paradis. On le reçut dans la chambre de madame. C'était l'heure du premier déjeuner. Des bols de café au lait encombraient un guéridon près du feu. Des savates traînaient sur le tapis, des vêtements sur les fauteuils. Arnoux, en caleçon et en veste de tricot, avait les yeux rouges et la chevelure ébouriffée. Le petit Eugène, à cause de ses oreillons, pleurait, tout en grignotant sa tartine. Sa sœur mangeait tranquillement. Madame Arnoux, un peu plus pâle que d'habitude, les servait tous les trois. « Eh bien, » dit Arnoux, en poussant un gros soupir, « vous savez. » Et Frédéric ayant fait un geste de compassion. « Voilà, j'étais victime de ma confiance. » Puis il se tut, et son abattement était si fort qu'il repoussa le déjeuner. Madame Arnoux leva les yeux, avec un haussement d'épaule. Il se passa les mains sur le front. « Après tout, je ne suis pas coupable. Je n'ai rien à me reprocher. C'est un malheur. On s'en tirera. Ah, ma foi, tant pis. » Et il entama une brioche, obéissant du reste aux sollicitations de sa femme. Le soir, il voulut dîner seul, avec elle, dans un cabinet particulier, à la Maison d'Or. Madame Arnoux ne comprit rien à ce mouvement de cœur, s'offensant même d'être traitée en lorette, ce qui, de la part d'Arnoux, au contraire, était une preuve d'affection. Puis, comme il s'ennuyait, il alla se distraire chez la maréchale. Jusqu'à présent, on lui avait passé beaucoup de choses, grâce à son caractère bonhomme. Son procès le classa parmi les gens tarés. Une solitude se fit autour de sa maison. Frédéric, par point d'honneur, crut devoir les fréquenter plus que jamais. Il loua une baignoire aux Italiens et les y conduisit chaque semaine. Cependant, ils en étaient à cette période où, dans les unions disparates, une invincible lassitude ressort des concessions que l'on s'est faites et rend l'existence intolérable. Madame Arnoux se retenait pour ne pas éclater. Arnoux s'assombrissait, et le spectacle de ces deux êtres malheureux attristait Frédéric. Elle l'avait chargé, puisqu'il possédait sa confiance, de s'enquérir de ses affaires. Mais il avait honte. Il souffrait de prendre ses dîners en ambitionnant sa femme. Il continuait néanmoins, se donnant pour excuse qu'il devait la défendre et qu'une occasion pouvait se présenter de lui être utile. 8 jours après le bal, il avait fait une visite à M. d'Ambreuse. Le financier lui avait offert une 20aine d'actions dans son entreprise de houille. Frédéric n'y était pas retourné. Deslauriers lui écrivait des lettres. Il les laissait sans réponse. Pellerin l'avait engagé à venir voir le portrait. Il les conduisait toujours. Il céda cependant à Sisy, qui l'obsédait pour faire la connaissance de Rosanette. Elle le reçut fort gentiment, mais sans lui sauter au cou comme autrefois. Son compagnon fut heureux d'être admis chez une impure, et surtout de causer avec un acteur. Delmar se trouvait là. Un drame, où il avait représenté un manant qui fait la leçon à Louis XIV et prophétise 89, l'avait mis en telle évidence qu'on lui fabriquait sans cesse le même rôle. Et sa fonction maintenant consistait à bafouer les monarques de tous les pays. Brasseur anglais, il invectivait Charles Ier. Étudiant de Salamanque, maudissait Philippe II. Ou, père sensible, s'indignait contre la Pompadour, c'était le plus beau. Les gamins, pour le voir, l'attendaient à la porte des coulisses, et sa biographie, vendue dans les entractes, le dépeignait comme soignant sa vieille mère, lisant l'Évangile, assistant les pauvres, enfin sous les couleurs d'un saint Vincent de Paul mélangé de Brutus et de Mirabeau. On disait « notre Delmar ». Il avait une mission, il devenait Christ. Tout cela avait fasciné Rosanette, et il s'était débarrassé du père Oudry, sans se soucier de rien, n'étant pas cupide. Arnoux, qui la connaissait, en avait profité pendant longtemps pour l'entretenir à peu de frais. Le bonhomme était venu, et ils avaient eu soin, tous les trois, de ne point s'expliquer franchement. Puis, s'imaginant qu'elle congédiait l'autre pour lui seul, Arnoux avait augmenté sa pension, mais ses demandes se renouvelaient avec une fréquence inexplicable, car elle menait un train moins dispendieux. Elle avait même vendu jusqu'au Cachemire, tenant à s'acquitter de ses vieilles dettes, disait-elle, et il donnait toujours. Elle l'ensorcelait, elle abusait de lui, sans pitié. Aussi les factures, les papiers timbrés, pleuvaient dans la maison. Frédéric sentait une crise prochaine. Un jour, il se présenta pour voir Madame Arnoux. Elle était sortie. Monsieur travaillait en bas dans le magasin. En effet, Arnoux, au milieu de ses potiches, tâchait d'enfoncer de jeunes mariés, des bourgeois de la province. Il parlait du tournage et du tournassage, du truité et du glacé. Les autres, ne voulant pas avoir l'air de n'y rien comprendre, faisaient des signes d'approbation et achetaient. Quand les chalands furent dehors, il conta qu'il avait eu le matin avec sa femme une petite altercation. Pour prévenir les observations sur la dépense, il avait affirmé que la maréchale n'était plus sa maîtresse. Je lui ai même dit que c'était la vôtre. Frédéric fut indigné, mais des reproches pouvaient le trahir. Il balbutia. « Ah, vous avez eu tort, grand tort. Qu'est-ce que ça fait ?» dit Arnoux. « Où est le déshonneur de passer pour son amant ? Je le suis bien, moi. Ne seriez-vous pas flatté de l'être ? » Avait-elle parlé ? Était-ce une allusion ? Frédéric se hâta de répondre. « Non, pas du tout, au contraire. Eh bien alors ? Oui, c'est vrai, cela n'y fait rien. » Arnoux reprit. « Pourquoi ne venez-vous plus là-bas ? » Frédéric promit d'y retourner. « Ah, j'oubliais, vous devriez, en causant de Rosanette, lâcher à ma femme quelque chose. Je ne sais quoi, mais vous trouverez. Quelque chose qui la persuade que vous êtes son amant. Je vous demande cela comme un service, hein ?» Le jeune homme, pour toute réponse, fit une grimace ambiguë. Cette calomnie le perdait. Il alla le soir même et jura que l'allégation d'Arnoux était fausse. Bien vrai. Il paraissait sincère, et quand elle eut respiré largement, elle lui dit « Je vous crois », avec un beau sourire, puis elle baissa la tête et sans le regarder. « Au reste, personne n'a de droit sur vous. » Elle ne devinait donc rien, et elle le méprisait, puisqu'elle ne pensait pas qu'il pût assez l'aimer pour lui être fidèle. Frédéric, oubliant ses tentatives près de l'autre, trouvait la permission outrageante. Ensuite, elle le pria d'aller quelquefois chez cette femme pour voir un peu ce qu'en était. Arnoux survint, et 5 minutes après, voulut l'entraîner chez Rosanette. La situation devenait intolérable. Il en fut distrait par une lettre du notaire qui devait lui envoyer le lendemain 15 000 francs, et pour réparer sa négligence envers des lauriers, il alla lui apprendre tout de suite cette bonne nouvelle. L'avocat logeait rue des Trois-Maries, au 5e étage, sur une cour. Son cabinet, petite pièce carrelée, froide, étendue d'un papier grisâtre, avait pour principale décoration une médaille en or, son prix de doctorat, inséré dans un cadre d'ébène contre la glace. Une bibliothèque d'acajou enfermée sous vitres sans volume, à peu près. Le bureau, couvert de basane, tenait le milieu de l'appartement. 4 vieux fauteuils de velours vert en occupaient les coins, et des copeaux flambaient dans la cheminée.